Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalot enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalot, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, 13e épisode de la Contre-Réforme.
La contre-réforme ne se limite évidemment pas à Saint-Charles-Borromée et le courant siècle et davantage dans tout le monde catholique, mais il nous servira comme de fil conducteur à travers une œuvre aussi considérable. Nul, en effet, n'a incarné mieux que lui la réforme tridentine. Pasteur, homme de prière, Charles-Borromée est aussi un chef, un roc d'autorité sur lequel s'est appuyée pour plusieurs siècles la réforme catholique. Et on peut lire encore chez une de ses biographes, Simone Melchior Bonnet, que la figure de Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, s'est imposée à l'Europe en quelques décennies avec une force qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. La figure d'un évêque modèle, selon l'esprit du Concile de Trente, aux yeux brillants de foi, au visage ascétique creusé par les jeunes. Au physique, ses portraits font penser à Paul VI, le pape Jean-Baptiste Montini, qui fut lui aussi précédemment archevêque de Milan. Mais Borromée était au moral beaucoup plus sûr de lui et plus déterminé. Dans une église en fermentation, travaillé par la question du salut. Son zèle apostolique et sa charité sont une manifestation éclatante du réveil spirituel et pastoral, une réplique vivante aux positions protestantes quant à l'utilité des œuvres et à la valeur des rites. C'est un autre Ambroise, ainsi que le souligne opportunément l'épigraphe des bollandistes, Ambrosi cessa de flere in subria funus, in Borromeo nunc redivivus ad est. Cesse, région des Lombards, de pleurer Ambroise, il revit aujourd'hui en Borromée. Il naquit à La Rocca, le château d'Arona, sur le lac Majeur, à une soixantaine de kilomètres au nord de Milan, le 2 octobre 1538. Il était le cadet d'une famille appartenant à la haute aristocratie, par son père, Gilberto Borromeo, comte d'Arona, et plus encore par sa mère, Marguerite de Médici. Tout jeune, on le destina à l'Église. Il était tonsuré à 8 ans, abbé commanditaire de Saint-Gratinien et de Saint-Félin à 12. Et il semble bien qu'on puisse suivre ses biographes lorsqu'il nous assure que son caractère, docile, pieux et charitable, s'accordait avec l'orientation que sa famille donnait à sa vie. Il venait d'obtenir le titre de docteur in utroque iure, en droit civil et ecclésiastique, en 1559, lorsque son oncle, le cardinal Gianangelo Medici, monta sur la chaire de Saint-Pierre avec le nom de Pie IV. L'année suivante, le pape l'appelait à Rome et le comblait de charges et d'honneurs. Il devenait protonotaire apostolique, référendaire de la signature apostolique, secrétaire d'État, administrateur de l'évêché de Milan et cardinal-diacre de Saint-Guy et de Saint-Modeste. Tout cela en 2 mois et quand il n'avait pas 22 ans. Il est vrai qu'il avait fait ses preuves aux yeux de son oncle, ayant admirablement réglé les affaires de sa famille à la mort de son père et empêché les Espagnols de s'installer dans la place forte d'Arona. Il menait grand train, avec 150 domestiques en livrée de velours, des chevaux de prix, de somptueux carrosses. Là-dessus, son frère aîné, Frédéric, le chef de famille, meurt. On presse Charles de reprendre la vie laïque, de se marier. Mais voilà qu'il manifeste son désir de rester entièrement consacré à l'Église. Il demande à être ordonné prêtre et, avant de célébrer sa première messe, fait la grande retraite spirituelle des exercices de Saint-Ignace sous la direction du père Rivera. Pie IV le nomme cardinal prêtre du titre de Sainte Praxède et le soumet à une nouvelle pluie de distinctions et de responsabilités. Le voilà grand pénitencier de l'Église romaine, archiprêtre de Sainte-Marie Majeure, protecteur de la Germanie inférieure, du royaume de Portugal, des provinces de Flandre, des cantons suisses catholiques et de divers ordres religieux, à savoir de ceux de Saint-François, des Humiliés, des chanoines réguliers de Sainte-Croix de Coimbra, des chevaliers de Malte, des chevaliers de la Croix de Jésus-Christ en Portugal, enfin légat de Bologne, de la Romagne et de la Marche d'Ancône. C'est un cas de népotisme particulièrement flagrant. Mais alors que les faveurs dont les papes comblaient leurs neveux ou leurs enfants avaient fait à l'Église tant de tort et devaient en faire l'avenir en d'autres occasions, la confiance de Pie IV était très heureusement placée. Décidé à se dévouer à la cause du Christ, Charles Borromée passait d'une vie pieuse, sérieuse et studieuse à la ferveur, à l'ascétisme et à la pauvreté. Son rôle dans l'Église, ainsi que nous l'avons dit, allait être d'une extraordinaire efficacité. Très vite, il allait lui être donné de contribuer à conduire le Concile de Trente, à bonne fin. Le concile avait été ouvert par Paul III le 13 décembre 1545, non sans mal. L'Église, depuis longtemps, depuis deux siècles et davantage, attendait une réforme in capite et in membris, à la tête et dans ses membres, sérieuse, profonde, puisque, ainsi que dit tel pape, exactement Jules II, non seulement la discipline ecclésiastique, mais de façon générale, la manière de se conduire dans la vie se sont effondrées et écartées du bon chemin, et que partout, chez les personnes de tout âge et de toute condition, les mœurs ont subi un grand dommage. En particulier, l'exil de la papauté en Avignon, puis le grand schisme, deux papes, puis trois, en avait donné le sentiment très vif. Même un Alexandre VI, après l'assassinat de son fils préféré Jean, le duc de Gandie, entend se réformer et réformer l'Église. La commande, c'est-à-dire la mainmise des riches sur les biens d'Église, la simonie, la dissolution des mœurs, ce sont des mots que beaucoup déplorent, mais contre lesquels sont peu nombreux ceux qui savent réagir. Le sursaut collectif, on l'attend du concile, que les tenants de l'autorité pontificale redoutent pourtant, parce que au temps de Pise et de Constance se répandit la théorie qui mettait l'autorité du concile général au-dessus de celle du pape. En fait, de 1512 à 1517, ouvert par Jules II, clôturé par Léon X, quelques semaines avant la révolte de Luther contre les indulgences, un nouveau concile écuménique s'est tenu, le 18e de l'histoire, le 5e réuni au Latran. Il n'a rien donné que de vains discours, de bonnes intentions, des velléités. Qu'oserais-je dire des conciles, écrivait Érasme, sinon peut-être que le récent concile du Latran n'en a pas été un. Le concile de Trente aura, lui, une toute autre efficacité. Il n'y en aura pas d'autre de plus de trois siècles. Il détermine l'avenir de l'Église, non pas jusqu'au premier concile du Vatican, mais jusqu'au second, pour 400 ans. D'où vient cette énorme différence? C'est évidemment que le schisme protestant a servi de détonateur. Certains répugnent à parler de contre-réforme. Trente, disent-ils, commande une réforme catholique que le monde catholique attendait et préparait. Sans doute, mais aurait-elle eu cette force, se serait-elle même produite sans l'urgence que Luther et Calvin provoquaient. En fait, Trente est une réponse. Ses canons et ses décrets sont pour l'essentiel des réponses aux questions posées par les docteurs protestants. Il faut observer en même temps que cette première moitié du XVIe siècle connaît dans le monde catholique un mouvement spirituel d'une envergure et d'une qualité exceptionnelles. Voilà que Gaétan de Thienne et Jean-Pierre Carafa, le futur Paul IV, fondent les Théatins. Antoine Zacharias, les Barnabites. Matteo da Bascio et Bernardino Occhino, les Capucins. Joseph de Calasanz, les Escolapios. Jérôme Émilien, les Somasques. Angèle Merici, les Ursulines. Dans la chapelle des Martyrs, à Montmartre, le 15 août 1534, Ignace de Loyola et ses six compagnons prononcent leur premier vœu. Et Paul III reconnaîtra officiellement la Compagnie de Jésus en 1540. La plus haute sainteté éclate dans des figures comme celle de Jean d'Avila, de Pierre d'Alcantara, de Jean de Dieu, de John Fisher, de Thomas More, de Louis de Grenade, de la Grande Thérèse, de Jean de la Croix, de Philippe Néri et de combien d'autres. La flamboyante époque de la Renaissance, celle des découvreurs de monde, des conquistadors, des plus merveilleux artistes, d'extraordinaires savants, est aussi l'une des plus fertiles en haute sainteté de l'histoire de l'Église. Également, sur le plan doctrinal, Trente est préparé. Cela par des conciles provinciaux, particulièrement ceux de Sens en 1528, de Cologne en 1536, de Cantorbéry en 1555. Marc Venard écrit que le concile de Sens, dont l'humaniste érasmien Jos Christophe fut l'acteur principal, a donné l'exemple d'une profession de foi systématique à partir de l'autorité de l'Église visible. Celle-ci a seule autorité pour interpréter l'Écriture et la compléter par des traditions. Elle est la seule garante des constitutions humaines comme des sept sacrements. Sont affirmés la messe comme sacrifice, le purgatoire, le culte des saints et des images, pour terminer par le libre arbitre et le rejet de la foi sans les œuvres. Ce sont déjà tous les grands thèmes des décisions conciliaires. C'est dans ce climat et ce mouvement que Alexandre Farnèse accède à la papauté en 1534 et prend le nom de Paul III. Ce sera plus tard ce vieillard lassé que le Titien représente dans un portrait justement célèbre. En 1538, il a 67 ans, il semble peu qualifié pour réformer l'Église. Il appartient à l'une des familles les plus illustres de Rome. Il a occupé les plus hautes charges de la curie sans cesser, dit François Fossier, de semer des bâtards dont quatre sont légitimés. Sa sœur, la belle Giulia, mariée à un Orsini pour la forme, était, dit encore cet auteur, le plus bel ornement de la cour d'Alexandre VI. Lui, le cardinal Alessandro Farnese, est surtout connu pour ses remarquables qualités de diplomate. Or, ce pape va s'employer avec une énergie et une constance admirables à réunir un concile général. Pour y parvenir, il surmontera d'énormes difficultés qui viennent des relations tendues que la cour pontificale entretient avec Charles Quint, on se rappelle le sac de Rome par les impériaux dans un passé encore proche, sous Clément VII, en 1527. Et surtout, ces difficultés viennent de la guerre entre les deux principales puissances du temps, le royaume de France et l'empire des Habsbourg. Convoqué vainement à Mantoue dès 1538, puis à Vicence, Le concile ne s'ouvre que le 13 décembre 1545 dans la petite ville alpine de Trente, en présence de 4 cardinaux, 4 archevêques, 21 évêques, 5 généraux d'ordre, une cinquantaine de théologiens et de canonistes. Plus tard, on dépassera les 200 pères, ce qui ne fera encore qu'une petite minorité des 700 évêques qu'il y a à ce moment-là dans l'Église. Ouvert donc en 1545, le concile ne s'achèvera qu'en 1563. Mais pendant ces 18 années, il ne se réunira que quelques années à peine, 4 et demi. D'abord 18 mois en 1545-1547 pour 8 sessions sous Paul III. Un peu plus tard, un an, de mars 1551 à avril 1552 sous Jules III pour 8 sessions. Et enfin, presque 2 ans, de janvier 1562 à décembre 1563 sous Pie IV pour 9 sessions. Les premières sessions, celles de 1546, tiennent les traditions apostoliques non écrites comme source de la foi aussi bien que la Sainte Bible. Elles regardent la Sainte Église comme l'interprète autorisé de l'Écriture. Elles considèrent que le péché originel concerne toute l'espèce humaine sauf la très sainte Vierge Marie. Elles soulignent la nécessité de la prédication de l'Évangile par les évêques et les prêtres. Il faudrait tout un traité théologique pour présenter le décret sur la justification, une des pièces maîtresses du Concile. Les pères, soit en congrégation d'experts, soit en commission d'évêques, y travaillèrent 7 mois. Les 33 canons auxquels ils aboutirent ont une portée capitale. Ils sont essentiellement dirigés contre le prédestinationnisme de Calvin et la thèse luthérienne du salut par la foi sans les œuvres. Tous seraient à étudier, je me borne à citer le canon 9. Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la foi seule, en ce sens qu'aucune autre coopération n'est requise pour obtenir la grâce de la justification et qu'il ne lui est nullement nécessaire de se préparer et de se disposer par un mouvement de sa volonté, qu'il soit anathème. Les pères du Concile en étaient là de leurs travaux lorsque des bruits de guerre et un début d'épidémie les persuadèrent de quitter la ville médiocre de Trente, où ils étaient fort à l'étroit, pour se transporter dans la belle cité universitaire de Bologne. Là, le concile végéta dans l'indécision générale. Les pères s'étaient dispersés quand Paul III mourut le 10 novembre 1549, le 8 février 1550, le cardinal Del Monte était élu et prenait le nom de Jules III. Le 30 avril 1551, les travaux reprenaient à Trente, pour près de 2 ans. Ils portèrent essentiellement sur les 7 sacrements, les protestants n'en admettaient que 2, le baptême et l'Eucharistie. Ils insistèrent sur l'Eucharistie dont ils définissaient le caractère sacrificiel et le fait de la transsubstantiation. Il faut signaler la présence au concile en fin 51 et début 52 de représentants de princes allemands, ceux de Württemberg, de Saxe, de Hesse, de Brandebourg, passés au protestantisme. Ces démarches, que des intérêts d'ordre politique avaient provoquées, ne furent suivies d'aucun effet. Il était loin d'y avoir, d'un côté comme de l'autre, ce souci de rapprochement que nous appelons aujourd'hui l'œcuménisme. Trente s'est fait contre le protestantisme. Le catholicisme, à cette occasion, a marqué ses distances avec l'hérésie. Jules III, mort le 23 mars 1555, fut remplacé le 9 avril par le légat Marcel Servini, qui garda son prénom et fut pape sous le nom de Marcel II. mais il ne fit que passer sur le trône pontifical. De santé chancelante, il tomba malade quelques jours après Pâques et mourut le 1er mai, après donc un règne d'à peine 20 jours, qui nous rappelle celui tout proche pour nous de Jean-Paul Ier. Celui qui le remplaça, le Napolitain Gianpietro Carafa, avait 79 ans et restait d'une activité débordante. Il avait fondé avec Gaëtan de Thiennes la congrégation des Théatins et, comme membre de la curie, poussé avec ardeur à la réforme de l'Église. Devenu pape, il entendit conduire seul cette réforme et déploya dans ce sens une énergie souvent brutale. Il réduisit la fiscalité vaticane, supprima la commande, affermit l'Inquisition, récemment remise en vigueur par Paul III, établit l'index des livres hérétiques ou pernicieux. Le climat de Rome s'alourdit. Il réforma les couvents, renvoya les évêques à leur diocèse, il y en avait 113 dans la ville éternelle. Il fit la chasse aux moines girovagues. Le soir du 22 août 1558, toutes les portes de Rome furent fermées et la police pourchassa les moines errants. Une centaine furent arrêtés cette nuit-là même et davantage encore les jours suivants. Deux cardinaux du plus grand mérite, Morone et Reginald Paul, furent accusés d'hérésie. Le premier resta incarcéré 2 ans au château Saint-Ange et Marie Tudor retint le second en Angleterre pour lui épargner pareille humiliation. La mort de Paul IV, qui eut lieu le 18 août 1559, fut suivie de violentes manifestations de haine contre sa mémoire. Les auteurs jésuites d'une histoire des conciles écuméniques parue il y a quelques années portent sur le pape Carafa le jugement suivant. Il est certain qu'avec des intentions pures en elles-mêmes, celle de réformer l'Église, de la libérer du joug des puissances temporelles, de chasser l'esprit de lucre du gouvernement pontifical, Paul IV a été victime de sa nature violente et impulsive, tant pour agir que pour châtier. Faut-il regarder alors comme un regrettable intermède ce pontificat de 4 ans qui a bloqué la continuation du concile et jeté le soupçon d'hérésie sur 2 membres éminents du Sacré Collège? Ce serait porté sur sa signification dans l'histoire, un jugement étroit et partial. En fait, il représente aussi un apport positif. Paul IV a rompu délibérément avec l'esprit de la Renaissance qui se manifestait encore en la personne de Jules III. Il a pris pour règle en matière de réforme que toute législation est vaine si l'autorité responsable ne se met pas tout de suite à l'œuvre pour empresser l'application. Il a voulu le montrer, contrairement à l'assertion tant de fois répétée pendant la seconde période du Concile, que le Saint-Siège était incapable de réformer lui-même les abus invétérés de la cour romaine et de ses organes de gouvernement. Sa faute n'est pas tant d'avoir négligé le recours au Concile, en contestant les chances lors de son avènement, que d'avoir passé les bornes dans la voie d'autorité. C'est ici que nous retrouvons Gianangelo Medici, élu pape le 26 décembre 1559. Il prit le nom de Pie IV et déclara qu'il voulait être ce que ce nom signifiait, Pius, Pie. Il avait 60 ans, c'était un homme vigoureux et alerte, aimable et accessible, bien que très vif et souvent impatient. Il fut acclamé par les Romains qui voyaient en lui l'exacte antithèse de Paul IV. Il multiplia les démarches pour une réouverture du concile qui eut lieu le 18 janvier 1562 en présence d'un peu plus de 100 membres, légats du pape, patriarches, archevêques ou évêques. La clôture définitive eut lieu le 4 décembre 1563. Cette dernière période conciliaire fut principalement employé à des mesures disciplinaires, par exemple le devoir de résidence des évêques dans leur diocèse, l'établissement des séminaires, les règles de validité du mariage, le droit du pape de désigner les évêques, etc. Marc Venard écrit assez bien « Trente a réorienté toute l'institution ecclésiastique dans la perspective du salut des âmes. Le clergé, dans sa nature comme dans ses actes, est défini essentiellement par sa fonction pastorale, au service des fidèles. Pas étonnant donc que les chapitres de chanoines, qui se définissaient par la fonction d'intercession, aient senti d'instinct que le concile s'était fait contre eux, et qu'ils aient presque partout pris une attitude hostile à son application. Autre perdant, les ordres religieux, dont le statut dans l'Église a été confirmé en principe, on reconnaît la valeur des vœux, mais dont l'action est davantage subordonnée à l'autorité des évêques, les ordinaires. Les évêques à la tête des diocèses, les curés dans les paroisses, tels sont les deux piliers de l'Église dessinés à Trente. Ne parlons pas des laïcs, il n'est jamais question d'eux, sinon comme d'éventuels usurpateurs des droits de l'Église. Quant au pape, il sort grand vainqueur de l'épreuve. Pendant tout ce temps, Charles Borromée n'a pas figuré parmi les participants au concile. Ceux qui ont eu la vedette à Trente, ce sont les légats Morone, Hercule Gonzague, Jérôme Celipando, ou les théologiens Claude Leger, Diego Lainez, Adolfo Salmeron, qui sont des jésuites, Melchior Cano, Domenico Sotto, qui sont des dominicains. Mais auprès du pape, à Rome, le secrétaire d'État Borromée a été extrêmement utile. Les professeurs de la Grégorienne que j'ai déjà cités disent qu'il fut vraiment le bras droit de son oncle et le servit avec un dévouement inlassable. D'une extrême modestie, timide, d'élocution hésitante, il ne payait pas de mine, mais Pie IV sut mettre à profit l'intelligence, le sérieux, la conscience de ce jeune neveu. Le 9 décembre 1565, après 6 ans de pontificat, Pie IV s'éteignit. Charles lui ferma les yeux. Il contribua à l'élection de son grand ami, le dominicain Michele Ghislieri, Pie V, Saint Pie V. Il sera canonisé en 1712. Le pape du rosaire, du missel, du bréviaire, du catéchisme, de l'épante. Sans doute le plus grand de la contre-réforme. On a dit de lui qu'il avait été le premier pape à exercer le pontificat comme un prêtre plutôt que comme un souverain, prêtre suprême de tous les chrétiens, édifiant ainsi l'image de la papauté moderne. Résistant aux instances de Pie V, qui désirait l'avoir à ses côtés, Charles Borromée se consacra dès lors, il avait 27 ans, à son évêché métropolitain de Milan. De l'état dans lequel il y trouvait l'Église, les bollandistes tracent un tableau épouvantable. L'usage des sacrements en était presque banni, le libertinage y était public, sans qu'on se mît en peine de le réprimer ni de le punir. Les églises étaient profanées par les impiétés qu'on y commettait sans aucune crainte. Les prêtres étaient encore plus déréglés que le peuple. Leur ignorance était si grande que la plupart ne savaient pas les formes des sacrements. Quelques-uns même ne croyaient pas être obligés de se confesser puisqu'ils confessaient les autres. L'ivrognerie et le concubinage étaient très communs parmi eux, et ils y ajoutaient sans cesse des sacrilèges exécrables par l'administration des sacrements et la célébration des saints mystères dans un état si criminel et si scandaleux. Il n'y avait presque plus de régularité dans les cloîtres, la propriété, l'incontinence et la dépendance en avaient obscurci la beauté. La plupart des religieux n'avaient de leur profession que l'habit. Encore en démentait-il la sainteté par sa forme toute séculière et sa délicatesse toute mondaine. Les monastères de filles, sikhs, étaient ouverts à toutes sortes de dissolutions. Chacun y entrait librement. On y faisait des danses et des festins magnifiques, et la chasteté n'y était guère plus à l'abri que dans les lieux de débauche. Enfin, la juridiction ecclésiastique avait été tellement négligée et était venue à un tel mépris qu'on ne se mettait nullement en peine de ses jugements ni de ses censures. Dans son entreprise d'évangélisation, l'archevêque Charles Borromée commença par se réformer lui-même. Il s'imposa une vie humble et austère. Il se défit de sa fortune et ne garda que la rente viagère suffisante pour sa maison diocésaine, ses séminaires, ses hôpitaux et ses asiles de mendiants. Employé à diverses charges, 100 ecclésiastiques et quelques laïcs habitaient l'évêché dont la vie était réglée comme un couvent austère. Il serait trop long de détailler l'action réformatrice de Charles Borromée. Il avait l'œil et la main à tout. À la liturgie, ses ennemis l'appelaient l'évêque sacristain. À la prédication, au clergé, aux religieux, aux 11 évêchés suffragants, aux pauvres, aux malades, au tribunal ecclésiastique. Aujourd'hui, plié à d'autres mœurs et à plus de tolérance, nous aurions tendance à le juger excessivement austère et sévère. Il avait horreur du carnaval, qu'il s'acharna à réduire. On le voit mettre en prison des adultères et des concubinaires. C'est bien cet esprit, sinon exactement ces méthodes, qui va s'imposer dans l'Église presque jusqu'à nos jours. Il suscita des résistances, des haines même, en particulier de la part du pouvoir espagnol auquel le Milanais était alors soumis. Il excommunia le gouverneur. Tel religieux, membre de la congrégation des frères humiliés, fit feu sur lui de son tromblon, et il ne dut son salut qu'à un miracle, disent les gens, et à la mauvaise qualité de l'explosif, selon les autres. Les bollandistes relèvent les 4 facteurs qu'il fit jouer pour la réforme de son diocèse et même de toute la province ecclésiastique. D'abord, la visite pastorale. Il allait partout, infatigable, dans toutes les églises, toutes les paroisses, toutes les écoles, tous les hospices, toutes les maisons religieuses. Ensuite, les séminaires et les écoles. Le séminaire constitue l'une des principales innovations du Concile. Il y a lieu de s'y arrêter un instant. Le canon 18 de la 23e session, l'une des toutes dernières, en mai 1563, estime que la discipline ecclésiastique ne peut être observée si l'on y est formé dès l'adolescence, avant que le vice n'ait pris possession de l'homme. Aussi décide-t-il que chaque église, cathédrale, métropolitaine ou autre encore plus importante constitue un groupe d'enfants à éduquer religieusement et à former dans les disciplines ecclésiastiques. Le siège du groupement est à déterminer par l'évêque, près de la cathédrale ou en tout autre lieu convenable. Les enfants auront au moins 12 ans, seront nés de mariage légitime, sachant lire et écrire avec les aptitudes requises pour l'exercice du ministère ecclésiastique et la volonté de s'y consacrer définitivement. En principe, ils seront pauvres, mais les riches pourront y être admis et seront nourris aux frais de leur famille. Ces enfants seront répartis en classes, compte tenu de leur âge, de leur nombre et de leur progrès, et répartis en 2 groupes. L'un affecté au ministère des Églises, l'autre appliqué aux études. Pour faciliter la discipline, ils recevront immédiatement la tonsure et porteront l'habit ecclésiastique. Ils étudieront la grammaire, le chant, le compus ecclésiastique, les homélies des saints, ce qui est nécessaire pour l'administration des sacrements, notamment de la confession, soit la liturgie et le cérémonial. Ils assisteront chaque jour à la messe, se confesseront au moins chaque mois et recevront la Sainte Communion au jugement de leur confesseur. Enfin, ils rendront service à la cathédrale et dans les églises du lieu les dimanches et jours de fête. La discipline sera sévère, avec punition des incorrigibles et, si nécessaire, leur expulsion. Le problème des ressources à assurer dépend immédiatement de l'évêque, qui doit s'entourer de deux conseillers, l'un nommé par lui, l'autre par le chapitre, avec assistance de deux autres membres du clergé de la ville, l'un nommé par l'évêque, l'autre par le clergé de la ville. Les premiers séminaires, c'est à Milan qu'ils apparaissent. Charles Borromée en fonde plusieurs et il établit également nombre d'écoles pour l'instruction des pauvres. Le troisième moyen que l'archevêque de Milan employa pour le relèvement de son diocèse fut d'y appeler des religieux, des jésuites, qu'il établit magnifiquement et dont le succès apostolique fut considérable, des théatins, des capucins, tous ordres nouvellement fondés, et il institua lui-même la compagnie des oblats de Saint-Ambroise et l'assemblée des dames de l'oratoire. Enfin, Charles Borromée, pour associer autant que possible les autres à son action, réunit six conciles provinciaux et 11 synodes diocésains pendant les 18 années de son épiscopat, sans parler de très nombreuses assemblées consultatives qu'on appelait alors des congrégations. L'archevêque donna toute la mesure de son ardente charité lors de l'épidémie de peste qui frappa Milan en 1576. C'est le trait de sa vie que l'iconographie qui le concerne a principalement retenu, Saint Charles Borromée soignant les pestiférés. Loin de se mettre à l'abri, il se fit aussi proche que possible de ses diocésains, leur apportant tous les secours, physiques, moraux et surnaturels possibles, se dépouillant de tout, de son argenterie, de ses meubles, de son lit même, pour mettre plus de ressources au service des malades, des veuves, des orphelins. On ne lit pas sans une certaine émotion qu'il aperçut un jour un enfant en vie contre les mamelles de sa mère qui venait de mourir et qu'il se jeta entre les morts pour sauver la vie du pauvre petit. Ce comportement plus qu'exemplaire acheva de faire de Charles Borromée le modèle des évêques catholiques. Ajoutons, et ceci encore contribua à son aura, qu'il joignait au souci pastoral le zèle missionnaire. Le canton des Grisons, dans la Haute-Suisse, faisait partie de son vaste diocèse. C'était une région que les gens de l'époque, peu amis de la montagne, jugeaient horrible. En outre, le mouvement protestant y avait réalisé des conquêtes considérables. Au prix de durs efforts, l'archevêque en personne l'évangélisa et rétablit la foi et la piété, disent ses biographes, dans la vallée de Mesolcina et le comté de Bellinzona, terre au demeurant proche de son Arona natale. Charles Borromée mourut à 46 ans, accablé de fatigue et chargé de la plus pure des gloires. C'était en 1584, le 3 novembre, qui reste le jour de sa fête. Paul V devait le canoniser 26 ans plus tard, le 1er novembre 1610. Répétons ce qui va sans dire. La contre-réforme déborde largement l'action de celui qui en incarne le plus fortement le modèle, Charles Borromée. Il faudrait par exemple analyser l'action remarquable des successeurs de Pie V, Grégoire XIII, le pape des séminaires, des missions et du calendrier, de Sixte Quint, le pape des congrégations, du Saint-Pape Clément VIII, qui disait la messe, sa messe, chaque matin et se confessait chaque soir. C'est lui, ce dernier, qui réconcilia notre bon roi Henri avec l'Église catholique. En France, ravagée par les guerres de religion, la contre-réforme tarda à produire ses effets. Ils sont éclatants au XVIIe siècle. Si je devais, en conclusion, relever les principaux effets de la contre-réforme, plutôt encore que l'autorité de l'Église en face des puissances laïques, la résidence des évêques et leurs meilleures qualités, l'organisation de la curie romaine, l'efficacité de l'apologétique catholique, je soulignerai d'une part l'intériorisation de la pratique religieuse, d'autre part les missions intérieures. La forme de piété qui caractérise le mieux la contre-réforme, c'est la pratique de l'oraison. Ce n'est sans doute pas une nouveauté absolue, car certains ordres monastiques du Moyen-Âge consacraient déjà une partie de leur temps à la prière silencieuse. Mais à cette époque, à l'époque dont nous nous occupons, le XVIe siècle, puis le XVIIe, l'oraison sort des cloîtres pour se répandre dans la société laïque. Sa pratique se généralise en même temps qu'elle se codifie dans les congrégations et les confréries. Elle précise ses méthodes, plus actives chez les jésuites, de quiétude ou de recueillement chez les carmes. C'est une révolution psychologique, d'après Lucien Febvre. Désormais, et presque jusqu'à nos jours, il n'y a pas de vie dévote, c'est-à-dire donnée à Dieu, autant dire de vie chrétienne consciente et conséquente, sans oraison. Comme il n'y en a pas non plus, sans pratique sacramentelle assidue, sans confesseur habituel, sans directeur de conscience, aujourd'hui encore ne voit-on pas dans les faire part de décès de nos amis espagnols, sous directeur spirituel, ouvrir la liste des membres de la famille en deuil. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, écrit le grand Pascal dans son mémorial. Et l'on se rappelle aussi les pages acerbes de la Bruyère dans les caractères sur la dévotion excessive que portent les femmes à leur directeur de conscience. Il faut aussi, enfin, parler des missions intérieures ad fideles. Certes, à l'époque qui nous intéresse, les missions étrangères, ad paganos, celles de Chine en particulier, connaissent un nouvel essor. Et nous ne devons pas ignorer celles concernant les protestants, où s'illustrèrent un François de Sales dans le Chablais, un Charles Borromée dans les Grisons, nous en parlions tout à l'heure, un Pierre Canisius en Allemagne, un Robert Bellarmin, parmi bien d'autres. Mais c'est alors qu'on lance, ceci est une innovation, ces missions de l'intérieur du genre que nous avons nous-mêmes connu dans notre enfance et notre jeunesse. La méthode consiste à confier l'évangélisation d'un ensemble de paroisses à un groupe de prêtres qui s'y consacrent durant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Certains ordres traditionnels ou réformés, comme les capucins, mais plus encore les nouveaux instituts, tels que les lazaristes, dont le nom officiel est celui de prêtre de la mission, les eudistes, les oratoriens ou les jésuites, s'en font une spécialité, ce qui compense l'incurie du clergé paroissial. L'histoire a retenu les noms de quelques-uns de ces pionniers, ainsi en France Michel Noblet, les jésuites Rigoloc et Huby, Saint-Jean Eudes, plus tard viendra le plus célèbre de tous, Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est le début d'un immense effort qui va se poursuivre presque jusqu'à nos jours. Les missionnaires adaptent leur enseignement à leur public qui est populaire. Ils utilisent les patois, ils lancent des cantiques simples, ils usent et abusent d'effets spectaculaires. Ils font appel à la sensibilité. Volontiers, ils ont recours aux comiques. L'objectif est de convertir, d'obtenir un changement de vie conforme aux exigences de la foi, en insistant sur la confession et la communion. La méthode n'est pas laxiste, la gravité du péché, la sévérité des jugements de Dieu, l'enfer et ses tourments pour les pécheurs endurcis sont des thèmes communs. Notre étude, trop courte, aura, nous le souhaitons, persuadé de la belle, très belle restauration, de l'affermissement que l'Église a connu au cours de cette période dont le Concile de Trente est le cœur. La deuxième partie du XVIe siècle a mis sa marque sur l'Église catholique pour 400 ans. Elle a fixé le mode de vie du chrétien. Les missions, donc, la pratique de l'oraison, mais aussi l'obligation de la messe dominicale, le culte de la présence réelle, l'adoration perpétuelle, les processions de la fête Dieu, celles des rogations, les messes pour les défunts, la communion fréquente, l'assiduité à la confession, la direction de conscience, l'importance du curé au centre de la communauté chrétienne, celle de la paroisse, le catéchisme pour les enfants, tout ou presque tout l'exercice concret de la foi catholique tel qu'on le connaissait encore il y a quelques années est sorti de cette gestation qu'on a appelée la réforme catholique ou la contre-réforme. Et tout cela s'écroule sous nos yeux. Au cours de cette crise de l'Église que nous connaissons et pendant laquelle, lentement et sûrement, se réalise une nouvelle gestation.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo, c'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 14e épisode, le jansénisme.